Les cours du Collège de France, Franck Courchamp, chaire biodiversité et écosystème.
Bonjour, merci d'être venu, vous êtes drôlement sage, c'est bien, ça augure d'un cours où il n'y a que moi qui vais parler. Bienvenue au Collège de France pour ce premier cours d'une série sur les invasions biologiques. Bon, je ne sais pas si vous connaissez déjà un petit peu avant ou si ça va être une totale surprise. On va aller progressivement au cours des 8 cours. Et ce sont des cours qui vont être orientés recherche, donc sur différents aspects, et qui vont commencer quand même de manière assez générale. Donc le premier cours ne va pas être trop orienté recherche, ça va être cours-conférence. Deuxième cours, il va y avoir un peu plus des recherches qu'on fait actuellement. Donc quand je dis recherche, c'est recherche passée, récente, ou même recherche en train de se faire. Et puis, nous aurons, comme vous le savez, des séminaires après chaque cours. Chaque séminaire est choisi en fonction du cours qui le précède, de manière à approfondir un petit peu, mais en même temps à élargir un petit peu. Et j'ai choisi d'inviter des séminaristes qui sont des experts de disciplines connexes aux invasions biologiques, c'est-à-dire qu'ils travaillent souvent sur les invasions biologiques, mais pas à partir de l'écologie comme moi, à partir de l'épidémiologie, la philosophie, l'économie, etc. Donc, tout à l'heure, nous allons avoir un séminaire sur les sciences de l'invasion et l'épidémiologie. Et je vous conseille très fortement de rester parce que ça va être très bien. Bien, donc le premier cours, en fait, je vais essayer de mettre en évidence le fait que les invasions biologiques, c'est problématique, et c'est sous-estimé. Et je vais faire quelque chose... En fait, je vais quasiment à chaque fois faire 3 parties. Et je vais parler d'abord de manière assez classique de l'objet d'étude, du processus, pour qu'on comprenne un peu de quoi on parle. On va parler un peu de définition, c'est important, parce que c'est un domaine où les définitions ne sont pas hyper fixées encore et où les experts entre eux ne sont pas tous d'accord, donc c'est important de savoir de quoi on parle exactement. Puis après, on va parler de l'ampleur et de l'importance, et puis on va faire une toute petite dernière partie de conclusion sur les solutions. Donc, pour ceux qui sont venus déjà à la leçon inaugurale, j'ai essayé de faire comprendre le concept d'écosystème comme entité complexe. Et que lorsqu'on regarde un écosystème, souvent les gens qui ne sont pas écologues voient une espèce de chaos d'espèces végétales, animales, microbiennes. En général, les écologues, ils voient plutôt une profusion de mécanismes et d'entités interagissant les unes avec les autres. En fait, rappelez-vous que je vous ai expliqué que les espèces, en fait, sont connectées les unes aux autres et elles fonctionnent avec et grâce à celles avec qui elles sont connectées, de manière directe ou de manière indirecte. Et les ensembles d'espèces en interaction peuvent être assez complexes. Il peut y avoir énormément d'espèces qui interagissent de manière directe et indirecte. Ça forme ce qu'on appelle des communautés et des écosystèmes qui vont fonctionner de manière assez précise, flexible mais précise, en mouvement perpétuel, ce qu'on appelle un équilibre instable. Qu'est-ce qui arrive lorsque on introduit un engrenage étranger dans ce système? Alors la plupart du temps, l'engrenage est trop différent, il ne va pas réussir à s'intégrer au système. Comme par exemple, si on introduit des insectes à sang-froid, dans un écosystème où les températures sont trop basses pour qu'ils puissent se développer. Donc, l'espèce n'est pas adaptée et ne peut tout simplement pas s'intégrer au système d'engrenage. Ou alors, il va réussir à y rester et alors, il va forcer un peu parce qu'il n'y a pas de place dans les écosystèmes, il n'y a pas de niche vide, toutes les niches sont occupées. Et alors, s'il arrive à s'intégrer, il va forcément avoir un impact, au moins sur une espèce, mais très probablement sur de très nombreuses espèces. Et ça, ce sont les invasions biologiques. Les invasions biologiques, c'est lorsque vous prenez une espèce qui appartient à une certaine aire native, qu'on appelle native, et vous le transportez par bateau, par avion, par camion, etc., et vous le transportez dans un autre écosystème, un écosystème au-delà de ce qu'on appelle des barrières géographiques, c'est-à-dire qu'il ne peut pas normalement migrer tout seul. Et puis, souvent, il va avoir un impact dans ces populations, là où il s'est établi. Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème ? Ben, c'est un problème parce que pendant des dizaines de millions d'années, les espèces qui ne sont pas capables de se disperser lors de longues distances ou de franchir des barrières géographiques, bien, elles ont divergé, elles ont évolué de manière distincte d'autres écosystèmes. Et ces espèces qu'on introduit, en général, on les introduit sans leur cortège de ce qu'on appelle les ennemis naturels. Les ennemis naturels, ce sont les prédateurs, les compétiteurs, les parasites, les herbivores pour les plantes, etc. Et donc, ces espèces, lorsqu'elles sont introduites, elles peuvent construire rapidement des populations importantes parce qu'il n'y a personne pour les contrôler. Et si ces espèces parviennent à s'adapter à un nouveau milieu, et en particulier au niveau climatique, alors le milieu, lui, souvent, il n'est pas bien adapté à ces espèces. Parce que les espèces locales n'ont jamais rencontré ce nouveau compétiteur, ce nouveau prédateur, ce nouvel herbivore, etc. Et donc, les espèces locales, on les appelle souvent naïves écologiquement. Et en l'absence de prédateurs et de parasites, et avec de nombreuses proies qui ne sont pas adaptées, alors les nouveaux arrivants, en général, vont pulluler très rapidement. Donc, pas adapté, ça veut dire, par exemple, imaginez une petite proie, elle ne va pas se reproduire assez vite pour pouvoir compenser les pertes, elle ne va pas protéger ses petits, ou elle ne va pas, même pas cacher ses petits. Une plante ne va pas avoir d'épines, ne va pas avoir de défense chimique, ne va pas avoir une stimulation de la pousse lorsqu'elle est broutée, etc. Donc c'est ça qu'on appelle la non-adaptation. Alors, je vais essayer de vous donner pas mal d'exemples pendant ce cours. On va commencer par la moule zébrée, parce que c'est une des espèces qui a vraiment fait prendre conscience du problème des invasions au niveau mondial. Donc la moule zébrée, elle est originaire de la région de la mer Caspienne, ici, et elle a été introduite accidentellement dans plusieurs des grands lacs, enfin d'abord dans un, en Amérique du Nord, dans les années 80, et probablement du fait des eaux de ballast. Et en fait, la moule zébrée, elle vit en colonie comme ça, elle s'accroche au substrat, et elles s'accrochent les unes aux autres, et elles peuvent être en très forte densité. Donc vous voyez ici que ça peut vraiment faire des densités et des quantités assez importantes. En fait, si vous regardez cette jolie plage d'un de ces lacs, en fait, c'est pas une plage de sable fin, c'est une plage de coquilles de moules zébrées qui ont été rejetées sur la plage une fois que les moules étaient mortes. Vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup. Ça peut faire vraiment des quantités gigantesques. Et évidemment, pour les espèces qui vivent là, ça peut être problématique. Parce que lorsque vous avez tout ça qui se colle sur votre dos, ça pose des problèmes. Mais surtout, ça posait des problèmes aux coques des bateaux, aux hélices. Et c'est comme ça qu'on a vraiment commencé à réagir, parce que il fallait nettoyer tout ça, ça coûtait de l'argent. Et puis, les moules zébrées, en fait, obstruent les canalisations qui sont utilisées pour refroidir les centrales nucléaires. Et là, ça veut dire que ça peut coûter énormément. Et du coup, on a commencé à vraiment s'intéresser à ce problème de cette espèce qui n'était pas là au départ. Pourquoi elle était là? Pourquoi elle était là en si grande quantité, etc. Donc, on a commencé à s'intéresser aux invasions biologiques. Je vous donne un autre exemple qui est plus proche, parce que celui-là, vous devez le connaître, j'imagine. C'est le frelon asiatique. Le frelon asiatique, il provient d'une cargaison de poterie chinoise. Et on sait maintenant que cette cargaison de poterie chinoise contenait une seule femelle fécondée. Donc on le sait grâce à des études génétiques rétrospectives de toute la population qui existe maintenant, car maintenant, en fait, c'est une espèce qui, en 20 ans seulement, a envahi toute la France, mais aussi les pays limitrophes, y compris la Grande-Bretagne. Et à l'époque, c'était l'invasion la plus rapide terrestre qu'on ait jamais rencontrée. Et évidemment, on sait que cette espèce a des impacts importants, c'est un prédateur, des impacts importants sur les pollinisateurs sauvages et également sur les colonies d'abeilles à miel. Troisième exemple, les tourneaux. Alors les tourneaux, ils viennent de chez nous, donc on le connaît, on connaît bien ces vols comme ça. En fait, il a été introduit aux États-Unis, il a été introduit à Central Park, 60 individus seulement ont été introduits par un fan de Shakespeare qui s'était dit « je vais introduire toutes les espèces d'oiseaux qui sont citées dans les pièces de Shakespeare aux États-Unis pour recréer un petit peu la faune dont on a l'habitude ». Aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de 200 millions d'étourneaux aux États-Unis et qui font des dégâts, notamment sur l'agriculture, à hauteur de plus de 800 millions de dollars d'agriculture, à cause d'un gars qui a introduit 60 individus. Et donc, par l'activité de dispersion des humains, l'émigration et le commerce, l'accélération de ces apports d'espèces, vous voyez ici, pour l'Europe et pour la Nouvelle-Zélande, ça élimine cet isolement, les barrières géographiques n'existent plus. Et de ce fait, le nombre d'espèces qui vont coloniser de nouveaux habitats, il a augmenté de plusieurs ordres de grandeur ces derniers siècles, fois 10, fois 100, etc. Donc, on parle d'invasion biologique et on parle d'espèces exotiques envahissantes. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous donner quelques définitions. Une espèce exotique, c'est tout simplement une espèce qui n'a pas son aire native ici. Alors, en général, on dit espèce, mais en fait, c'est population. C'est une espèce ou une population qui vit hors de son aire de répartition normale, actuelle ou passée. Okay, c'est ça qu'on appelle exotique. Après, une espèce exotique envahissante, c'est une espèce exotique dont l'introduction et la propagation constituent pour les écosystèmes, les habitats ou les espèces, une menace de dommages économiques et ou écologiques. Donc faites bien la distinction entre espèce exotique et espèce exotique envahissante. L'introduction, c'est le déplacement par les activités humaines d'une espèce hors de son aire de répartition naturelle, passée ou présente, résultant dans sa perpétuation dans le site dans un avenir prévisible. Je ne vois pas beaucoup qui prennent des notes là. Une introduction, elle peut être intentionnelle ou concerner une espèce qui se sert des humains et de ses systèmes de distribution à leur insu comme vecteur pour se disperser et s'implanter hors de son aire de répartition naturelle. Un insecte qui arrive dans une cargaison de grains, par exemple, ou un rat qui arrive sur un bateau, ce ne sont pas des introductions intentionnelles. Les tourneaux, lui, c'était intentionnel. Donc, une invasion biologique, c'est le processus qui implique l'introduction, intentionnelle ou non, par les activités humaines, c'est toujours par les activités humaines, d'une espèce dans des régions hors de son aire de répartition naturelle où elle peut s'établir et se propager. Alors, dans l'invasion biologique, il n'y a pas forcément un impact. Là, les experts ne sont pas tous d'accord. Est-ce qu'on inclut l'impact ou pas dans la définition ? Ça ne va pas forcément nous affecter, nous, pour ce cours, mais c'est à noter. Il se peut qu'on parle d'invasion biologique sans considérer s'il y a un impact ou non. Et alors, en fait, un détail qui peut être intéressant, c'est qu'on parle d'espèces exotiques envahissantes, EEE, mais en réalité, c'est des populations envahissantes. Hein, ce n'est pas l'espèce entière, parce que l'espèce, elle reste encore dans son aire native, elle existe encore. Okay ? Et quand on peut, en tout cas, moi, j'essaie de le faire, c'est mieux de privilégier le concept d'invasion biologique à celui d'espèce exotique envahissante, parce que ce qui est intéressant, c'est le processus, ce n'est pas le médium par lequel ça arrive. C'est un petit peu comme si on s'intéressait plus au bulldozer qu'à la déforestation. D'accord ? Les espèces exotiques envahissantes, on va essayer d'en parler à chaque fois qu'on veut mettre le doigt sur une en particulier, un impact en particulier. Mais en général, c'est plus intéressant de parler d'invasion biologique plutôt que de stigmatiser une espèce avec tous les problèmes que ça peut causer. Et ça, on en parlera un petit peu plus tard dans un autre cours. Et alors, la distinction entre les espèces exotiques et les espèces exotiques envahissantes, elle est importante parce que toutes les espèces exotiques ne vont pas devenir envahissantes. En fait, on parle souvent de la règle des 10%, même si ce n'est pas 10% exactement. On dit que 10% de toutes les introductions vont réussir à s'établir et que 10% de toutes les espèces établies vont réussir à se disperser et à faire un impact. Donc, au final, ça fait seulement 1% des espèces exotiques qui sont problématiques. Ceci dit, 1% de dizaines de milliers d'introductions, c'est beaucoup. Et on peut le voir ici avec l'exemple des eaux de ballast. Les eaux de ballast sont les eaux qui sont utilisées pour la flottaison des navires lorsqu'ils sont vides ou pas vides de leur cargaison. Donc on prend de l'eau dans un port et puis lorsqu'on va dans l'autre port, on rejette l'eau. Mais c'est de l'eau qui contient des animaux en général, des larves, etc. En fait, il y a 10 milliards de tonnes d'eau de ballast qui sont transférées tous les ans dans le monde. Alors, 10 milliards d'eau de ballast, des milliards pardon, de tonnes d'eau, on ne se rend pas bien compte de ce que ça fait. Donc j'ai traduit en milliards de piscines olympiques, ce qui fait qu'on ne se rend pas compte non plus. Mais bon, c'est bien en général de traduire soit en terrain de football, soit en piscine olympique. Et en fait, on sait que les plus gros vaisseaux, à force de vider, remplir, il y a dans leur soute des centaines de tonnes de sédiments. Et dans ces sédiments, il y a énormément de larves qui peuvent être transférées d'un mout à l'autre. Et en fait, on sait qu'à cause des eaux de ballast, il y a un transport de 3 à 4 000 espèces tous les jours à travers le monde. Alors, toutes ne vont pas donner une introduction et toutes ne vont pas donner une invasion, mais ça veut dire qu'il y a énormément. Et donc, 1% seulement de beaucoup de choses, ben, ça fait au final beaucoup de choses. Donc, je n'insiste pas plus sur les eaux de ballast. Vous aurez quelques mots lors du séminaire du cours numéro 6 avec Guillaume Latombe qui vient d'Écosse exprès pour faire ses séminaires. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu les caractérisations et les définitions, c'est-à-dire que maintenant que vous allez comprendre ce que je vous raconte, on va essayer de parler un petit peu de l'importance. Pourquoi est-ce que je vous le raconte ? Donc, déjà, la chose qui nous intéresse le plus, c'est combien il y a d'espèces envahissantes. Alors, il y a eu un rapport récent de l'IPBES. L'IPBES, c'est comme le GIEC de la biodiversité. Et ça a été un rapport qui s'est focalisé sur les invasions biologiques. Donc, pendant 4 ans, 87 experts du monde entier, dont votre serviteur, pour représenter la France, ont épluché toute la littérature scientifique qui existait, donc des dizaines de milliers de références, pour essayer de faire un état des lieux sur les invasions biologiques. Et l'état des lieux a montré qu'il y a au moins 37 000 espèces exotiques envahissantes qui sont donc établies, introduites par des activités humaines un petit peu partout dans le monde. On sait que ça continue, il y en a à peu près 200 nouvelles tous les ans. Et dans ces 37 500, il y en a à peu près encore 10% qui sont des espèces exotiques envahissantes, donc qui posent vraiment un problème au niveau des écosystèmes et des fois sur les humains. Tous les grands groupes taxonomiques et tous les environnements sont concernés. C'est-à-dire que si on regarde ici les milieux marins, d'eau douce et terrestre, et ici on voit le nombre d'espèces exotiques en fonction de la couleur, vous voyez que dans le monde, il y en a vraiment un petit peu partout, même s'il y en a vraiment beaucoup en Australie, Nouvelle-Zélande, en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. Il faut voir que ça c'est l'état des connaissances, mais il y a des choses qu'on ne connaît pas, et il y a des zones dans le monde, notamment dans l'hémisphère sud, où on a l'impression qu'il y a beaucoup moins d'espèces exotiques envahissantes, mais c'est aussi parce qu'on les a beaucoup moins étudiées. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ces espèces exotiques envahissantes, elles viennent de partout dans le monde et elles vont partout dans le monde. Tout le monde s'échange des choses. Vous voyez ici ce que l'Europe a fourni aux autres continents et ce que l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Australie ont fourni aux autres continents en termes d'espèces exotiques envahissantes. Par exemple, le crabe bleu, vous en avez peut-être entendu parler, il est très problématique en Méditerranée, il vient d'Amérique du Nord. Et en fait, ils n'y ont pas forcément gagné au change parce que nous, on leur a envoyé le crabe vert, qui est aussi très problématique maintenant en Amérique du Nord. Bon, vous allez me dire, c'est des crabes dans les deux cas, pourquoi est-ce que ça pose un problème ? Parce que ni l'un ni l'autre n'a coévolué avec l'habitat où il est maintenant introduit, et donc la faune et la flore locale ne sont pas du tout adaptées à ces nouveaux arrivants. Donc c'est le commerce mondial qui est le principal mécanisme de transport, d'introduction et d'établissement et de propagation après d'espèces exotiques envahissantes. Tous les groupes taxonomiques sont présents. Donc vous voyez ici sur ce petit graphique qui montre un petit peu. Bon, l'important, ce n'est pas ici les proportions, hein, c'est de montrer qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des plantes terrestres, des plantes aquatiques, des invertébrés terrestres, des invertébrés aquatiques, des vertébrés, des. Champignons, des micro-organismes, etc. Donc ça, c'est la liste des 100 espèces parmi les pires au monde. Ce n'est pas les 100 pires, c'est une liste qui a été concoctée par l'IUCN pour essayer de communiquer sur les invasions biologiques il y a peut-être une quinzaine d'années maintenant et qui essayait, non, bien plus, 20, 25 ans, et qui essayait de mettre en avant beaucoup d'espèces différentes et beaucoup d'impacts différents pour montrer que c'était problématique. En Europe, on a au moins 15 000 espèces exotiques. J'ai vu des chiffres aussi de 20 000, 25 000 espèces exotiques et probablement 5 000 d'entre elles sont envahissantes. En France, on a au moins 2750 espèces exotiques qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. Donc, les invasions biologiques continuent à augmenter. Je vous ai dit tout à l'heure 200 nouvelles espèces par an. En fait, plus d'un tiers de toutes les espèces exotiques connues ont en fait été signalées depuis 1970. Donc, ça fait une cinquantaine d'années. En une cinquantaine d'années seulement, plus d'un tiers des espèces. Le nombre n'a cessé d'augmenter depuis des siècles dans toutes les régions et pour tous les groupes d'espèces. Donc, vous voyez ici, pour chaque groupe d'espèces, avec chaque courbe, c'est une couleur qui représente un continent, une région du monde. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a une augmentation très importante, une augmentation exponentielle. C'est en train d'exploser. Et ça, c'est dû à l'augmentation des transports internationaux de marchandises et de personnes. Et on sait que ça va continuer d'accroître les introductions dans le futur. Le changement climatique, lui, va augmenter les chances que ces introductions se transforment en invasions. Alors, pourquoi c'est important ? Je vais vous donner quatre exemples, ce sera plus simple pour vous expliquer en quoi c'est important. Un exemple de plante, un exemple d'herbivore, un exemple d'omnivore et un exemple de carnivore, histoire de voir un petit peu tous les niveaux trophiques et le type d'effet que ça peut avoir. Donc, pour les plantes, on a plein de choix. On peut prendre cette liane ici qui a envahi l'île Marianne dans le Pacifique. Mais finalement, je vais prendre une plante qui nous rapproche plus puisqu'elle est à Tahiti. Elle a été introduite à Tahiti, c'est Myconia qu'on appelle aussi le cancer vert, qui a été introduite comme plante ornementale en 1937, qui maintenant occupe plus de la moitié de l'île, et qui a en fait un... Donc vous voyez ici, c'est un arbre, cette plante. En fait, c'est un système d'enracinement très superficiel et tentaculaire, et ça favorise les glissements de terrain, comme on voit ici. En plus, ça a une canopée hermétique qui va éliminer toutes les autres plantes. Vous voyez ici à quel point c'est dense. Et donc, c'est difficile de trouver de la lumière en dessous. Et puis, regardez les feuilles que tient ici mon collègue, mon excellent collègue Jean-Yves Meyer. Vous voyez là, bon, déjà la taille des feuilles, mais l'épaisseur aussi. Vous voyez à quel point la lumière ne passe plus et que donc, c'est difficile pour des plantes natives de survivre dans une forêt dense de Myconia. Une plante adulte produit environ 1 million de graines par an qui va être viable pendant... qui va être viable pendant plus de 15 ans dans le sol. C'est-à-dire que si on élimine tous les adultes, on a après beaucoup de graines qui peuvent repousser. Les animaux vont manger les fruits et vont disperser les graines un petit peu plus loin. Il y a plusieurs douzaines d'espèces endémiques de Tahiti, de plantes qui sont menacées d'extinction à cause de Myconia. Elle a été introduite dans d'autres îles, comme Hawaï par exemple, et elle est actuellement toujours vendue comme plante ornementale, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas légiféré pour empêcher sa dispersion. Un autre exemple, donc c'est celui-ci d'herbivore, donc il mange les plantes, lui. Évidemment, là, c'est simple de prendre le lapin. Le lapin, c'est vraiment une très bonne illustration du potentiel néfaste des espèces exotiques envahissantes. Vous savez qu'il a été introduit en Australie par un fermier, que là-bas, maintenant, c'est vraiment un problème très, très important, qui s'adapte à des conditions très difficiles. Donc ça, c'est une vraie photo que j'ai recolorisée. Ça a été introduit sur plus de 800 îles dans le monde, des îles très froides, des îles très chaudes, des déserts dans les deux cas, et puis un petit peu tout au milieu. Et en fait, comme ils ont un régime alimentaire très flexible, et comme ils se reproduisent comme des lapins, eh bien, ça va faire un problème assez rapidement. Donc, un exemple, sur l'île de Lézan, qui est une des îles de l'archipel d'Hawaï, les lapins qui ont été introduits ont été responsables de l'élimination de 26 espèces de plantes en moins de 20 ans. C'est les responsables directs parce que, tout simplement, ils ont tout mangé. Et en fait, ils sont capables de manger, d'enlever des forêts entières parce qu'ils mangent les jeunes pousses, donc il n'y a plus de régénération. Et comme il y a souvent des cyclones dans le coin, bah, dès que les adultes tombent, normalement, les jeunes pousses prennent le relais, mais là, il n'y a plus de jeunes pousses. Et donc, il y a des îles comme Round Island qui se sont retrouvées assez rapidement sans plus aucune plante, alors qu'elles étaient des forêts avant. Et puis, comme il n'y a plus de plantes, il n'y a plus rien pour retenir la terre, et donc la moindre pluie, en fait, tout est lessivé, et on se retrouve avec un rocher sans plus rien, ni lapin, évidemment, parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Et puis, dans cette île, les ans, par la destruction de l'habitat et des ressources, ils sont aussi responsables de la disparition de 3 espèces d'oiseaux, avec une 4e, le canard de l'Aisan, donc un canard qui ne vivait que dans cette île. Il n'y avait plus que 7 individus lorsque les lapins ont été éliminés de l'île. Bon, bonne nouvelle maintenant, les canards de l'Aisan se portent très bien, ils ont reconstitué une population importante. Un exemple d'omnivore introduit. Donc, les omnivores, ils posent un petit peu des problèmes parce qu'ils reposent sur deux sources de nourriture. Et donc, ils peuvent alterner et subsister en l'absence de l'une d'elles. Par exemple, en hiver, s'il n'y a plus de végétation, souvent, il y a encore des animaux sur place. Ou lorsque ce n'est pas la saison de reproduction des oiseaux marins, eh ben, ils peuvent se rabattre sur des plantes. Donc, l'exemple, ici, tout indiqué, c'est les rats. Donc, il y a 3 espèces de rats qui sont problématiques. On pourrait dire les rongeurs, parce qu'il y a les souris aussi qui posent des problèmes. Donc, les rats, ils ont été introduits dans plus de 80% des groupes insulaires majeurs. Ils ont suivi les humains sur leurs bateaux. Et les 3 espèces les plus courantes tuent des dizaines d'espèces d'oiseaux et d'autres choses. Donc, ils s'attaquent pas seulement aux œufs, mais aussi des fois aux adultes. En 1964, les rats ont atteint Big South Cape en Nouvelle-Zélande suite à un naufrage d'un navire. Ils ont réussi à nager jusqu'à l'île. Et en moins de 2 ans, ils ont éliminé de nombreuses populations, dont 5 espèces d'oiseaux et une espèce de chauve-souris qui ne vivaient que dans cette île et qui ont donc disparu de la surface de la Terre. Alors, je vous mets une photo ici, qui est une photo du rat du Pacifique, le Kyoré, à Laysan. Donc Laysan, je viens d'en parler, hein, à Hawaï. Le rat du Pacifique qui est là sur cet oiseau. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de proies naïves qui ne sont pas du tout habituées à la prédation, qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas réagir. Vous voyez qu'ici, la taille du bec est à peu près de la taille du rat, et pourtant, le rat va réussir à tuer l'oiseau. En fait, cette photo-là, qui a été parue dans un journal, où le chercheur qui travaillait depuis des décennies sur ces populations d'oiseaux, et puis qui les a vues décliner comme ça, c'est une des premières alertes sur les invasions biologiques dans les îles, et c'est en fait un des premiers articles que j'ai lu sur le thème et qui m'a un peu bouleversé et qui m'a fait m'intéresser aux invasions biologiques. Sur l'île de Gough, qui est la plus importante colonie d'oiseaux de mer au monde, il y a 22 espèces d'oiseaux nicheurs et elle est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Au siècle dernier, il y a un bateau de pêche qui transportait quelques souris domestiques qui sont arrivées, qui ont sauté sur la rive et maintenant atteignent des densités de l'ordre de 2 millions d'individus. Alors cette île, elle est assez célèbre parce que les souris ont développé ce qu'on appelle du gigantisme insulaire. C'est-à-dire qu'en l'absence de prédateurs, de forces de sélection qu'on trouve sur les continents, elles se sont mises à se modifier, à évoluer, et en fait, elles sont au moins 2 fois plus grosses que les souris classiques. Et puis, elles sont aussi assez voraces, puisqu'elles sont face à des animaux qui n'ont jamais vu de prédateurs terrestres. Donc, je vous donne un exemple de ce qu'on peut voir sur ces îles. Donc vous voyez ici un jeune albatros, et vous voyez une souris ici. Il y en a d'autres, hein. Et en fait, les souris sont tout autour, et l'albatros, il n'a pas idée de partir. Il ne comprend pas trop ce qui se passe. Et en fait, les souris, elles vont couper les plumes, elles vont faire un trou, puis elles vont rentrer dedans, puis elles vont le manger de l'intérieur. Et l'oiseau n'a absolument pas le réflexe de partir, de se défendre, de donner un coup. Les adultes ne défendent pas leurs petits, etc. Et puis, le problème des petits mammifères comme ça, des rongeurs, c'est que lorsqu'ils ne sont pas tenus en échec par des prédateurs, bah, ils peuvent devenir très nombreux, comme on le voit ici en Australie, où c'est devenu aussi envahissant. Et donc, vous imaginez bien qu'une proie naïve face à des marées comme ça de petits prédateurs, eh bien, ça devient un petit peu compliqué. Et en parlant de prédateurs, le dernier exemple, c'est celui des carnivores, ceux qui mangent uniquement les autres proies. Et là, j'ai pris l'exemple du serpent arboricole brun, qui a été introduit accidentellement à Guam par l'armée américaine, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils larguaient du matériel militaire sur l'île, et dedans, il devait y avoir quelques serpents. Et maintenant, on a des densités qui sont supérieures à 31 000 serpents par kilomètre carré. Donc, si vous n'aimez pas les serpents, Guam, ce n'est pas forcément votre destination de vacances. Le problème, c'est que c'est un prédateur nocturne, qu'il n'y a pas de prédateur nocturne sur cette île, et que la faune n'est absolument pas adaptée à se réveiller, à être vigilant, à se réveiller, à s'enfuir la nuit. Et donc, le serpent a très tranquillement éliminé de l'île 12 des 14 espèces d'oiseaux endémiques, c'est-à-dire qui ne vivaient que sur cette île, 2 des 3 espèces de chauves-souris et 9 des 12 espèces de lézards qu'on ne trouvait nulle part ailleurs et qui donc ont disparu de la surface de la Terre en quelques années. Et évidemment, on sait que son introduction dans d'autres îles du Pacifique serait catastrophique pour la faune endémique locale, et donc il y a des gens qui essaient de se battre pour que des lignes aériennes qui sont prévues ne se développent pas. Et aux dernières nouvelles, je crois qu'ils ont perdu. Donc, on le comprend, une menace majeure pour la biodiversité de manière globale. On sait que 60% des extinctions mondiales récentes sont dues aux invasions biologiques seules ou en conjonction avec d'autres facteurs de perte de biodiversité. Et on a documenté au moins 1200 extinctions locales d'espèces natives. Elles sont souvent considérées comme la deuxième menace actuelle pour la biodiversité, après la destruction de l'habitat et devant la pollution ou le changement climatique, et la première sur les îles où les espèces ne sont absolument pas adaptées à ce type d'espèces. Et puis, ça c'est les conséquences directes que je vous ai données, mais il y a aussi des conséquences écologiques en chaîne. On a tout à l'heure vu le frelon asiatique et l'abeille ou d'autres pollinisateurs, eh bien, évidemment, il y a des effets indirects qui vont se répercuter sur l'ensemble de l'écosystème. Lorsqu'on a un prédateur de pollinisateurs, ça va entraîner des effets sur les communautés de plantes qui ne sont plus pollinisées. Et là, je vais essayer de développer ça un petit peu plus avec l'exemple de la perche du Nil dans le lac de Victoria, dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il y a eu un documentaire là-dessus, Le cauchemar de Darwin. Donc la perche du Nil a été introduite volontairement dans le lac de Victoria, parce que c'est une source de nourriture potentielle pour de nombreuses populations humaines. Donc, le lac Victoria, c'est le deuxième plus grand lac au monde. C'est la principale source de protéines pour 3 pays, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un très jeune lac, 12 000 ans, c'est très jeune. Et c'est intéressant parce que malgré ce très jeune âge, en fait, il y a des cichlidés qui sont des espèces de poissons que vous connaissez peut-être si vous êtes aquariophile. C'est les petits amours des aquariophiles d'eau douce. C'est des poissons qui sont magnifiques. Donc il y a plus de 500 espèces. Donc c'est vraiment un rayonnement évolutif très important, très rapide, avec donc 500 espèces qui vont remplir un petit peu toutes les niches écologiques, même si en général ce sont des herbivores, mais ce sont en tout cas des petits poissons que les aquariophiles disent être plus intelligents que les autres. En tout cas, ils sont assez fascinants. Et en fait, la prédation de la perche du Nil a provoqué un changement majeur dans les structures de communauté de ces poissons. Vous imaginez ces petits poissons hein, qui sont comme ça en général, voire plus petits. Et la perche du Nil, la taille que ça peut avoir à la fin de sa vie. Donc imaginez, vous êtes sur une île, vous ne pouvez pas sortir de l'île, et puis on vous colle un tyrannosaure dans l'île. Vous n'êtes pas adapté, vous ne savez pas quoi faire pour défendre, mais vous ne pouvez pas non plus vous échapper. Et donc c'est ça en fait, le problème de la perche du Nil. On considère que c'est l'épisode moderne le plus massif d'extinction de vertébrés que l'on connaisse dans notre vivant. Puisque entre 200 et 300 espèces de ces poissons endémiques ont disparu en quelques décennies. C'est des poissons qu'on ne retrouvera plus. Mais là, je suis là pour vous parler de réactions en chaîne. Et en fait, le problème, c'est que si on n'a plus d'herbivores, alors on peut avoir une explosion de certaines plantes, dont des plantes envahissantes qui sont plus compétitrices que d'autres. Et ici, vous voyez qu'on a cette jacinthe d'eau qui va complètement recouvrir certaines zones du lac et qui va empêcher la lumière de passer au travers, qui va récupérer tous les nutriments, etc. Et puis, il y a aussi des poissons qui étaient détritivores. Et en l'absence de ces détritivores, on n'a plus de décomposition de matière organique au fond de l'eau, et donc on va avoir une très grande explosion de bactéries qui vont bouffer tout l'oxygène, et on va avoir des très grandes zones qu'on appelle mortes au fond du lac. Il y a aussi un rôle de proie. Tous ces petits poissons sont des proies, et c'est notamment des proies pour les oiseaux et les mammifères piscivores qui sont tout autour, qui vont donc disparaître, puisqu'ils n'ont plus de proie. Et enfin, plus d'insectivores, ce sont des insectivores qui mangeaient notamment des larves, et notamment des larves de moustiques. Et donc on a maintenant d'incroyables nuées d'insectes, notamment des moustiques et d'autres vecteurs de parasites au-dessus du lac. Donc vous voyez, pas mal de réactions en chaîne, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'impacts écologiques différents et que toutes les espèces sont liées. En fait, il y a 19 types d'impacts très très différents au niveau écologique. Je ne vais pas insister là-dessus, on y reviendra dans le cours suivant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des impacts sur les humains. Et vous voyez que certaines espèces ont des impacts que sur quelque chose, que sur la nature par exemple, ou sur la nature et ce qu'on appelle les contributions à la population. On appelle ça aussi les services des écosystèmes et sur la qualité de vie. Et donc, je ne vais pas insister là-dessus, je vais juste en parler très très rapidement. Impact sur la santé humaine. Donc, il y a par exemple des espèces qui vont provoquer des réactions allergiques, des plantes comme l'ambroisie à feuilles d'armoise, la petite fourmi de feu, des espèces qui provoquent des réactions toxiques comme la berce du Caucase, des espèces qui sont des vecteurs de maladies infectieuses, comme le moustique tigre par exemple, ou des réservoirs de pathogènes. Donc je ne vais pas insister là-dessus parce que vous allez avoir un séminaire juste après ce cours qui va justement détailler certains de ces exemples. Et puis il y a des impacts sur les économies parce qu'il y a des pertes agricoles, alors agricoles au sens large, hein, apiculture, pêcherie, aquaculture, viticulture, etc. Des pertes en foresterie, des pertes d'infrastructures, de tourisme, des pertes immobilières et puis des coûts de gestion. Et en fait, on considère que le coût annuel des invasions biologiques au niveau mondial, c'est très élevé, ça touche de très nombreux secteurs. Et là non plus, je ne vais pas vous en parler, je vais vous faire attendre une semaine et je vous en parlerai dans une semaine parce que ça vaut le coup d'être développé un petit peu. Bien. Alors, maintenant que je vous ai parlé du fait qu'il y a plein d'espèces et qu'ils ont plein de... d'impacts différents, on va très rapidement aller sur une nouvelle notion qui est l'étendue de ces invasions. Mais pas seulement l'étendue spatiale, mais en fait la magnitude de ces invasions. C'est une grosse invasion ou une petite invasion? C'est un petit peu problématique de savoir comment exactement on va mesurer la magnitude. Comment on va mesurer si une invasion est importante ou pas, sans considérer l'impact, qui est une dimension supplémentaire. Donc on pourrait utiliser l'impact, mais en fait c'est difficile à quantifier. Il y a trop de types différents, je vous l'ai dit tout à l'heure, et on a besoin d'une mesure d'étendue qui soit indépendante de cet impact, qu'on pourra rajouter éventuellement après. Donc on pourrait prendre l'étendue spatiale, mais ça dépend aussi de la densité des individus. Est-ce qu'il y en a beaucoup par kilomètre carré ou peu? Et puis c'est difficile de comparer différents groupes taxonomiques, hein, la densité de fourmis, la densité de plantes et la densité d'éléphants, c'est pas envahissant, mais de certains cerfs ou de sangliers, c'est difficilement comparable. Et donc une possibilité, ce serait d'utiliser la biomasse. Alors la biomasse, ne pas confondre avec ce qu'on utilise souvent comme terme pour considérer les biofuels. Là, la biomasse, en fait, c'est la masse combinée de toute une population. Donc vous cumulez les masses individuelles de tous les individus d'une population et vous avez la biomasse de cette population. Et en fait, la biomasse, c'est vraiment une unité qui est très utile parce que ça va nous permettre de comparer entre les espèces, entre les régions, entre les niveaux trophiques, dans le temps. Parce que 1 kg de lapin, eh ben, c'est 1 kg, comme 1 kg de fourmi. Hein, quand vous étiez petit, on vous disait, c'est quoi le plus lourd, 1 kg de plume ou 1 kg de plomb? C'est 1 kg dans les deux cas. Okay. Et en fait, pour vous montrer un petit peu, pour vous illustrer un petit peu ce concept, j'ai repris les espèces dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, j'aimerais bien que vous essayiez d'imaginer quelle est la biomasse des populations envahissantes. De la souris sur l'île de Graff, de l'écureuil gris, alors je n'en ai pas parlé encore, je vais vous en parler juste après. Du frelon asiatique en France, du serpent arboricole brun, celui qui mange tout sur Guam, de l'escargot géant africain, dont je ne vous ai pas parlé non plus parce que je vous en parlais juste après, de la perche du Nil, de la jacinthe d'eau, ou de la noix de mer, dont je ne vous ai pas parlé encore et dont je ne vous parlerai pas après. Vous avez une idée un peu, laquelle est plus importante, laquelle est moins importante, lesquelles sont équivalentes? Ok. La souris domestique, c'est 80 tonnes. 80 tonnes sur une petite île. 80 tonnes de prédateurs que rien n'arrête, en fait. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est beaucoup. Mais en fait, l'écureuil gris, le frelon asiatique, le serpent à brucole, même si ce sont des espèces qui ont différentes tailles et qui sont sur différentes surfaces, c'est à peu près la même chose. Même ordre de grandeur. C'est deux ordres de grandeur de plus que les 80 tonnes. Hein. Donc on a fait multiplier par 10 par 10. Deux ordres de grandeur. Et puis si on va sur l'escargot africain en Nouvelle-Calédonie, on a encore un ordre de grandeur supplémentaire. Là, on est de l'ordre de la dizaine de milliers de tonnes d'escargots. La perche du Nil, encore un ordre de grandeur supplémentaire. 200 000 tonnes de prédateurs voraces dans un lac. La jacinthe d'eau, on passe encore à un ordre de grandeur supplémentaire. 1 700 000 tonnes. Vous imaginez, c'est compliqué après à gérer ce genre de choses. Et puis, la noix de mer, qui est donc une méduse envahissante, 93 millions de tonnes, donc encore un ordre de grandeur supplémentaire. Et donc en fait, cette biomasse, elle nous permet vraiment de savoir à peu près la taille des invasions. Et je ne parle pas des impacts, parce qu'il est possible que l'impact de cette invasion soit plus importante que celle-ci, ou pas. On verra ça dans le cours suivant. Dernier exemple, les grands herbivores d'Australie. Donc on s'est amusé dans notre équipe à essayer d'estimer la biomasse des grands herbivores envahissants en Australie parce que on n'arrivait pas bien à savoir lequel était le pire entre les chevaux, les chèvres, les cochons. Je ne parle pas de ce qui est domestique, hein, je parle de ce qui s'est échappé, qui fait des populations qu'on appelle férales et qui pose des problèmes sur l'environnement. Donc on a ici par exemple le buffle d'eau et les bintangues, c'est un autre bovidé, et chaque petit cube, en fait, c'est 5000 tonnes. Donc, vous voyez que les bintangues, c'est à peu près 5000 tonnes. Il y a le chiffre aussi précis ici, et là, 124 000 tonnes, ouais, de buffles d'eau. Si on prend les dromadaires, les cerfs, les chèvres et les chevaux, vous voyez que là, on en est à beaucoup plus, 200 les chèvres et les chevaux. Donc une chèvre, c'est beaucoup moins lourd qu'un cheval, mais il y en a beaucoup plus, donc c'est à peu près équivalent au final. Et puis, ce à quoi on ne s'attendait pas, les ânes et les cochons sauvages, et là on est carrément à un ordre de grandeur supplémentaire. Donc ça, c'est les animaux qui sont introduits en Australie, les grands herbivores uniquement, et qui posent des problèmes, notamment parce qu'ils sont compétiteurs des grands herbivores natifs. Et si on regarde les grands herbivores natifs, en fait, on s'aperçoit que les grands herbivores envahissants, si on parle de biomasse, en fait, ils sont plus importants que maintenant. Ils ont supplanté la biomasse locale. Et en fait, à chaque fois qu'on a une tonne de dromadaire, par exemple, c'est une tonne qui ne va pas aller aux espèces natives, parce que ça va manger les herbes que les espèces natives auraient pu manger, etc. Donc c'est en fait une tonne qui est cooptée, qui est supprimée de l'écosystème par les espèces envahissantes et qui n'est plus à disposition de ces espèces, qui sont souvent des compétiteurs inférieurs et qui vont perdre la compétition. Donc vous voyez qu'avec la biomasse, on peut s'apercevoir que les espèces envahissantes peuvent vraiment prendre le pas sur les espèces locales. Et là, on parle à l'échelle quand même de l'Australie, donc quelque chose d'assez grand. Bien, solution très rapidement, parce que j'étais un peu long. Alors, en fait, je ne vais pas rentrer très loin dans les solutions parce que Guillaume Latombe, que j'ai mentionné tout à l'heure, vous fera un séminaire sur la biologie de la conservation dans le cadre des invasions. Mais je vais quand même vous dire très rapidement ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est l'exemple de l'introduction de l'acatine, qui est l'escargot géant africain que j'ai mentionné tout à l'heure, qui a été introduit dans les territoires d'outre-mer par les colons européens à des fins alimentaires principalement, commercialement, et puis après ça a été un peu dispersé par le commerce horticole un peu partout. Et alors l'acatine, le problème c'est qu'elle fait environ 200 œufs à chaque ponte et elle fait 6 à 7 pontes par an. Et jusqu'à 90% des œufs vont atteindre la maturité. Donc ça va faire des explosions de population très très rapidement s'il n'y a pas des prédateurs pour manger tout ça. Et ça a des impacts écologiques importants puisque c'est des compétiteurs des espèces endémiques pour la nourriture et l'habitat. Ça dégrade les écosystèmes parce que ça détruit la végétation locale et du coup, ça va perturber les chaînes trophiques. Et puis, ça a aussi des risques sanitaires, ces vecteurs de parasites. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a introduit une espèce de prédateur, puisqu'on disait justement, le problème, c'est qu'il n'a pas de prédateur et donc il est plus contrôlé. Donc, on a introduit un prédateur avec le glandine, qui est, on appelle aussi l'escargot rose, qui a été introduit donc par le ministère de l'Agriculture dans les années 70 en Polynésie française pour contrôler la catine. Vous voyez que c'est un prédateur qui est vraiment très, enfin non, vous voyez pas, mais je vous le dis, c'est un prédateur très efficace. Mais le problème, c'est qu'il est tellement efficace qu'il ne s'est pas restreint aux acatines, même s'il en a mangé, et il s'est attaqué aux espèces locales qui n'avaient jamais vu de prédateurs mollusques et qui se sont fait un peu décimer. Sept espèces endémiques ont disparu en seulement 10 ans à Moréa. À Bora Bora, deux espèces endémiques recensées ont disparu. Tara, six espèces ont disparu. Huahin, deux sur les quatre connues ont disparu. Et alors ici, c'est carrément 29 espèces sur les 33 endémiques qui ont disparu à cause de la prédation par cet escargot. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, je ne vais pas développer parce qu'il y a énormément de choses qu'il faut faire. Je vais juste donner une direction. Ici, vous avez ce qu'on appelle la courbe des invasions, où vous voyez en fonction du temps l'air qui est envahi et qui est d'ailleurs aussi l'impact que ça a. Donc, au départ, ça monte comme une exponentielle et puis un point d'inflexion et on va se retrouver avec une saturation. Et avec cette courbe, en fait, on peut distinguer trois phases, une phase d'introduction, une phase d'établissement et une phase d'invasion. Et en fait, l'air envahi est l'impact, mais c'est également le coût. Le coût économique que va générer cette invasion, mais aussi le coût de la gestion de cette invasion. Au départ, ça va être très peu, et puis à la fin, ça va être énorme. Donc au départ, lorsque c'est l'introduction, ce qu'il faut faire, c'est de la prévention, législation, biosécurité, sensibilisation, éducation. Donc empêcher en fait cette introduction. Si jamais l'espèce est déjà établie, alors il faut essayer de la gérer. D'abord, il faut la détecter, et puis il faut l'éradiquer. Normalement, c'est possible encore quand c'est à des phases initiales ou alors contrôler pour l'empêcher de s'étendre plus. Mais lorsqu'on est à cette phase d'invasion, tout ce qu'on peut faire maintenant, puisque l'éradication est difficile, voire impossible, c'est le confinement, l'atténuation et la gestion sur le long terme qui est très peu efficace et qui est très coûteux. Donc on sait, hein, prévenir vaut mieux que guérir. Et donc, ça vaut aussi pour les invasions biologiques, la prévention est plus efficace que le contrôle. Et donc, une réponse précoce et une biosécurité vigilante sont souvent moins coûteuses. C'est moins difficile, c'est moins cher et il y a moins d'échecs. Et je termine par un petit exemple pour illustrer ça. C'est l'exemple de l'écureuil roux qui habite en Europe. Et l'histoire que je vais vous raconter se passe en Grande-Bretagne. Et l'écureuil gris, son mignon petit cousin d'Amérique qui a été introduit là-bas. Et c'est un des cas d'école en écologie des invasions parce qu'on a pu suivre, un petit peu comme le frelon asiatique, au cours des décennies, on a pu suivre en fait, le déplacement de cette espèce. Donc vous voyez ici, sur l'île, où il y a l'écureuil gris, ici, pardon, roux, ici bah, en rouge, et puis l'écureuil gris, bah, on va dire en gris, et en orange, c'est là où il y a les deux. Et vous voyez que, en fait, au départ, il était au sud et qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais qu'au fur et à mesure des décennies, on l'a vu remonter, l'écureuil gris. Et puis, à chaque fois qu'il remontait, eh bien, on avait soit des zones grises, soit des zones oranges, où il y avait les deux. Et puis, on avait de moins en moins de zones rouges. Et puis, en fait, il n'y avait plus de zones rouges parce que l'écureuil gris est un compétiteur supérieur. Il arrive à retrouver les réserves de l'hiver plus facilement que l'écureuil roux, qui n'a pas développé spécialement des facultés extraordinaires puisqu'il n'avait pas de compétiteur pour ça. Et puis, il est aussi assez agressif vis-à-vis de l'écureuil roux. Et on pensait que c'était ça, en fait, la cause. Mais en fait, on s'est aperçu plus récemment qu'il est aussi porteur d'un virus. Il est porteur sain. Et donc, il affecte les écureuils roux par cette maladie qui ne l'affecte pas. Et donc, en fait, l'écureuil roux est en train de disparaître de Grande-Bretagne. Et ça, c'est quelque chose que les chercheurs connaissent depuis longtemps, et c'est pour ça que lorsqu'il a été introduit en Australie, il y a quelques années, maintenant ça doit bien faire 10-15 ans, les chercheurs italiens ont tout de suite alerté les pouvoirs publics et ont essayé d'éliminer tout de suite l'écureuil gris avant qu'il s'établisse. Il était juste dans un jardin au départ. Et donc c'est l'université de Pise qui a mené ces opérations de capture et d'élimination de l'écureuil gris, où il y avait quelques dizaines d'individus à tout casser au départ. Mais les associations de protection des animaux ont fait un procès à l'université de Pise pour pas que ces petits animaux qui sont mignons, c'est vrai, soient éliminés. Et ce procès a duré 5 ans. L'université de Pise a gagné le procès puisqu'on a pu démontrer que c'était problématique de laisser quelques individus être la cause probable de l'extinction de tous les écureuils roux, parce que s'il arrive après, il n'y a rien qui va l'empêcher d'arriver en Suisse, puis en France, etc. Et donc ils ont gagné le procès, mais c'était trop tard. En 5 ans, la population d'écureuils gris avait tellement explosé et s'était tellement étendue qu'on ne pouvait plus l'éliminer. Et puis, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple du frelon asiatique. En fait, il y a un autre frelon, qui s'appelle le frelon oriental, qui vient d'ici. Donc, il ne vient pas de Chine, celui-là, il vient d'ici. Et ce frelon vient d'être introduit vers Marseille. Il a été introduit il y a un an, je pense, quelque chose comme ça. Et c'est pour vous montrer que l'exemple des écureuils gris en Italie, en fait, ce n'est pas un exemple si lointain et qu'ils n'ont pas forcément fait moins bien que ce que nous on fait, puisque ce frelon oriental, il est en train de s'établir en France. Ça fait 1 an ou 2 ans, je ne sais plus. On ne fait rien pour l'instant. Or, le frelon asiatique, on sait très bien à quel point il a été problématique en France. Et donc, on va assister probablement à la même chose. Voilà, conclusion. Les invasions biologiques sont réellement problématiques de par leur nombre, leur étendue, leurs effets. Il faut qu'elles soient empêchées, gérées et étudiées. J'espère vous en avoir convaincu. Dans le prochain cours, je vais traiter de la question, puisque c'est important, comment ça se fait qu'on connaisse aussi peu les invasions biologiques et quelles stratégies on pourrait faire pour alerter face à ce paradoxe. Mais avant, je vous invite à rester pour suivre le séminaire de Christophe Diane sur la science des invasions et l'épidémiologie. Donc je termine en remerciant, alors à chaque fois j'ai énormément de collègues que je pourrais remercier, donc j'ai décidé de, à chaque cours, remercier mes collaborateurs principaux directs sur ceux que je vous ai montrés juste avant et uniquement ceux qui sont dans mon équipe, parce que je travaille avec énormément de gens dans le monde et donc je ne peux pas remercier tout le monde. Je remercie ceux-là et je vous remercie pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.